FMR 89.1.
Taxpayers, hello nasty bushwhackers, vous écoutez Radio Éphémère 89.1 MHz, également sur le DAB+, canal 7C, ainsi que sur le stream éphémère, je sais pas quoi.
Radio-éphémère.net.
Ouais, merci beaucoup. Et c'est crossover extrême, donc pourquoi crossover et pourquoi extrême? Tout simplement parce que nous sommes en direct de la Cinémathèque de Toulouse à l'occasion de la 24e édition du festival Extrême Cinéma. Aujourd'hui, eh bien, le troupeau habituel est là avec déjà Fabrice Last Hétéro.
Bonjour.
Désolé encore.
C'est pas grave, hein. Ouais. Me dérange pas.
Last Hétéro, donc une autre émission sur Radio FMR, c'est tous les vendredis.
Ouais, le vendredi 19h-20h.
Ok. Et pour passer de l'autre côté de la barrière, nous avons Axel. Bonjour.
Ouais. Faut même enjamber les barrières, toutes les barrières.
Ouais.
Parce que je viens représenter Booster d'ailleurs. Booster FM.
C'est ce que j'allais dire, parce que toi, t'es un booster, t'es pas éphémère. Voilà. Et parce que c'est une émission, et l'ensemble du festival, c'est une émission qui est conjointement programmée par
location.
Radio éphémère et booster, voilà. Et on a également bien lui qui vient tous les jours, mais il dit pas grand chose.
Ah ben je parle
juste,
peu.
Voilà, il a juste son petit téléphone pour rattraper les conneries qu'on pourrait dire, quoi. Comme ça, c'est du live, tu vois, le correcteur, quoi, en fait, de conneries dans l'émission.
Non, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, non, ben là, à ce coup-ci, ça tombe mal. J'ai pas regardé les films là, hier, mais
c'est
bon, je sais que j'ai loupé quelque chose. Je le sais.
Et juste en face, ils se sont installés déjà, le dynamique duo de la Cinémathèque, Franck Lubet et Fred Thibault. Merci d'être là. Salut.
Bonjour.
Ouais,
bonjour.
Ça va?
Ça va, ouais, fatigué, mais ça va, ouais.
Ouais, bien sûr, j'imagine. Et vous êtes là, bon, j'avais décidé un petit peu de vous choper, quoi, une fois dans la semaine. Et là, ça tombe bien, je me suis dit le mardi.
Toutes les semaines comme ça?
Non, pendant l'extrême, bien sûr, quoi. Et je me suis dit, ça tombe bien, le mardi, on va être à mi-festival, pratiquement. Donc, on pourra déjà faire un petit bilan sur ce qui s'est passé. Et, se projeter également jusqu'à la fin du festival. Mais tout d'abord, comme d'habitude, un morceau, alors il est bourrin d'une certaine façon, on parle de bourrin mais il n'est pas trop bourrin. Allez, vas-y, envoie, quoi. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing, bring an echo tap your feet. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing, bring an echo tap your feet. Early in the evening, just about supper time, over by the courthouse, they're starting to unwind. Four kids on the corner, they're trying to bring you up. Willie picks a tune out and he blows it on his harp. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing, bring a nickel, tap your feet. Rooster thumps a washboard,
people just gotta smile. Blinky plays the old gut bass and he solos for a while. Poor boy twangs a rhythm out on his Kalamazoo. Willie goes into a dance and he doubles on kazoo. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing Bring a Nickel, Tap Your Feet. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing Bring a Nickel, Tap Your Feet. You don't need a penny just to hang around, but if you got a nickel, won't you lay your money down? Over by the courthouse, there's a happy noise. People come from all around just to hear the magic boys. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing Bring a Nickel, Tap Your Feet.
Bobby Smith qui nous faisait une petite reprise de Creedence Clearwater Revival dans
Down on the Corner.
Bah ouais, bah si, hein, c'est comme ça. Hein, sauf que ça date de 79, donc ça faisait déjà plus de 10 ans que ce morceau était sorti.
Enfin, sur l'album de blanc quand même. Hein.
Willie and the Poor Boy. Voilà, c'était le titre de l'album de Creedence Clearwater Revival, hein, pas de Bobby Smith. Alors on est là pour parler de cinéma et on va commencer à avoir l'habitude d'ailleurs quoi. Eh ben on va d'abord parler des films qu'on a vus hier. Et avoir un petit retour parce que bon, même si en semaine il y a moins de films que les week-ends où c'est très touffu, on va dire, il y en a quand même à voir. Alors dans l'ordre de décroissance, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien, c'est-à-dire hier, c'est toi qui commences puisque tu sors de la séance de Fulci.
Alors on peut pas faire plus décroissant. Ouais. J'ai vu les 45 premières minutes du Fulci et c'est justement ce que je disais à Fred. J'étais agréablement surpris, mais je pense que le grand écran ça fait parce que Fulci, hein, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même un sacré bonhomme de cinéma. Et j'étais, c'était le venin de la peur. Et donc du coup, bah giallo pur, mais quand même sauce Fulci. Je m'attendais pas à ce qui, c'est un des trucs les plus oniriques que j'ai vu en fait. Je m'attendais pas à ce que Fulci plonge autant dans le côté, on va dire l'aspect, vous savez, au-delà de l'onirisme, l'aspect cérébral en fait.
On est en plein dans l'époque, hein, je pense. Hein,
bah,
71, là, je veux dire, ça turbinait quoi, du cerveau.
Il y a du psychédélisme, ça parle aussi de drogue dans le film. On entend parler comme ça de LSD, de marijuana.
Normal.
Même là, c'est ce que disait justement Jesse, notre camarade Yannick. C'est ce qu'il disait lorsque même la BO d'Ennio Morricone était un peu plus psychée. On voit un peu de split screen de temps en temps et puis après Giallo c'est années 70 donc j'étais agréablement surpris, hein, franchement, le venin de la peur, pressé de voir la fin, hein, parce que l'émission est... on verra, hein. J'ai mis pause dans la salle,
t'as mis pause.
Il y a quand même un mec qui ronflait devant, mais ça c'est le psychédélisme, ça.
Non, mais non, à midi.
Après, comme on disait, les fauteuils rouges, le midi, digestion peut-être.
Ah ouais,
c'est...
d'accord, ok,
ça déjà
joue. C'est un lève-tôt lui. Et hier soir, c'était quand même l'événement, on va dire. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais enfin bon, salle bondée. Vous avez refusé du monde, carrément,
ça arrive,
quoi. Hein, ouais. C'est déjà arrivé pour depuis le début de ce festival.
Non, c'était la première.
Hein, parce que
c'était le premier complet. Ouais.
C'était quand même très chaud, quoi, il faut dire. Et donc, toi, t'es pas allé le voir.
Ouais, j'ai fait mon flemmard, hein.
Bah ouais, t'as raison, quoi. De temps en temps, faut se reposer. Par contre, il y en a un qui y était,
oui.
Y compris moi, quoi. Donc, on va vous en raconter un petit peu quelque chose. Sachant que toi, Franck, en plus, tu es...
Je l'ai pas vu.
Le parangon de l'altruisme, puisque tu avais ton ticket pour aller voir la séance et tu l'as donné à un spectateur qui avait pas de place.
Oh. Bah
en fait le truc c'est que pour tout dire, c'est qu'au départ avec Fred le film on comptait le programmer pour la clôture et puis donc le Grindhouse
ils ont grillé.
Le Grindhouse, non, en fait on leur propose une carte blanche,
oui.
Et en fait ils souhaitaient présenter ce film. Donc du coup on leur a laissé le film et puis nous on a choisi autre chose pour la clôture et ce qui fait que du coup j'ai pas regardé le film avant et je me suis dit je vais le découvrir en salle et effectivement comme c'était très complet j'ai donné ma place à quelqu'un afin que
c'est pas du beau sacrifice ça.
Bah, c'est normal. Tu sais, quand on organise un festival, en fait, c'est pas tant pour regarder des films que pour les donner à voir. Hein, donc,
ouais, c'est pareil. Hein, un barman, il bosse dans un bar, mais c'est pas pour boire la bière.
C'est ça.
C'est un peu ça.
Tu fais un festival brassicole, c'est la même chose.
Bien hein. Cette analogie. Elle est bien. Elle est bien.
Ah ben, elle est simple à comprendre.
Elle est bien.
Voilà. Non, mais la prochaine fois qu'on me dira, ouais, c'est quoi le travail de programmateur, je dirais, ben, c'est un travail
de barman.
C'est comme barman.
C'est
ça, en fait. Tu prépares les choses, mais en fait, tu les sers, mais tu les consommes.
Tu les bois pas.
J'ai fait des festivals brassicoles dans le Nord, je peux t'assurer que c'est exactement
c'est
ça.
Ah ouais.
Tu programmes des brasseurs et tu peux même pas en goûter une.
Ouais. Alors donc, ce film, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Moi, j'ai bien aimé. C'est un film d'horreur avec un bon rythme. T'as deux heures, tu les vois pas passer, les deux heures.
Ouais, ça c'est vrai, tu les vois pas passer. Hein.
Ouais.
Y a pas de temps mort, quoi, on va dire. Hein. Y a quand même quelques moments un peu plus calmes de temps en temps, parce qu'il faut bien qu'ils se déplacent.
Il y en a pas beaucoup. Hein,
Il y en a pas beaucoup, mais bon, il y en a un peu, quoi, on va dire. Mais sinon, bon, c'est tambour battant, quoi, du début jusqu'à la fin. Et donc, bah ouais, c'est bien ce que.
Oui, on nous avait annoncé 2500 litres d'hémoglobine, mais
non, 2 tonnes 5.
Oui, mais c'est 1 kilo le litre à peu près, c'est comme l'eau, non?
J'imagine. Un peu plus.
Mais il l'a bien utilisé, on peut dire. C'est bon.
On les voit intéressant, on les voit à l'écran, hein.
On les voit à l'écran, c'est justement.
On les voit passer.
Ça, il y a pas de souci. Après, toutes les différentes façons diverses et variées d'être le plus violent possible avec tous les outils possibles et imaginables qu'on peut trouver sur un bateau. En plus, bien entendu, des armes qui, il y a des armes sur un bateau. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de flics qui sont embarqués également sur ce cargo. On revient vite fait sur l'histoire. Ce sont des prisonniers, des Coréens, donc, qui se sont réfugiés aux Philippines. Bon, ce sont des gangsters, des trucs comme ça, pour échapper justement aux poursuites judiciaires en Corée. Et donc, ils sont emprisonnés aux Philippines. Et, la Corée a décidé de les rapatrier pour les juger, pour de bon. Et donc, on va les transbahuter sur un bateau. Parce que la première expérience qui avait été tentée quelques mois plus tôt, ça avait mal tourné, puisqu'il y avait un type, une victime, quoi, qui avait fait péter une bombe. Voilà, ça c'est le début du film, donc vraiment je vous spoil pas grand chose. Et donc là, ils ont dit non, on va pas mettre ça sur un truc commercial.
Il y a eu des passants, c'était dans un aéroport, ils ont quand même aussi, ils ont été super malins, faire traverser tout un tas de bandits au milieu d'un aéroport heure de pointe, voyageurs.
C'est très malin.
Juste avec des rangées de flics, il y avait quand même tous les gens autour avec des valises, des sacs et tout. Il fallait se douter qu'il y en avait un qui allait faire quelque chose. Les complices, au moins, essayer de les libérer quelque chose. Et là, il s'est trouvé que c'était une victime ou la famille d'une victime qui a fait exploser, qui s'est suicidé d'ailleurs à la bombe pour pouvoir tuer le criminel. Et il a fait beaucoup de morts.
Dommage collatéral. Hein.
Voilà.
Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc, on va les transbahuter sur un cargo, quoi, c'est-à-dire les énormes bateaux qui transfèrent les containers. Alors moi, j'ai regardé la marque du truc parce que...
La marque du bateau ?
Ouais, la CGM, quoi. Et la CGM, je crois que c'est une compagnie française.
Oui,
c'est
une
des deux plus grandes compagnies de transport maritime au monde. Et donc, Cocorico, il y a un peu de France dans ce film.
Peut-être que c'est un effet de coproduction.
Oh non.
Je sais pas. Non, parce que le bateau s'appelle Titan. Titan Frontière. Frontière Titan. Voilà, c'est le nom du bateau. Alors donc, on va les charger dedans. Bon, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a une quarantaine. Et il y a autant de flics. Et après, ça va un petit peu partir en cacahuète parce que déjà ils ont pas été trop fouillés. Déjà sur le quai, il y en a un qui ose répondre comme ça au chef des flics et tout. Il se fait matraquer la gueule, un petit peu classique. Comme ce qui se passe dans les ghettos un peu partout dans le monde, hein, c'est-à-dire direct la matraque et ça y va grave, on va dire. Et après, il y a également le fait que il y en a un qui, par hasard, comme ça, a réussi à embarquer dans la bouche, un petit fil comme ça, quoi, qui habilement tordu, peut servir à enlever les menottes, parce que quand ils sont amenés sur le bateau, ils sont attachés aux pieds et ils sont attachés aux mains. Et déjà, il y a un truc qui moi m'a interpellé, c'est que quand tu vois qu'ils se font servir par les flics, donc leur plateau repas pour bouffer, donc, et donc ils sont assis par terre contre le mur, et il faut qu'ils lèvent les genoux pour avoir le plateau dessus. Alors déjà, l'instabilité, c'est pas top, et en plus, les menottes, comme elles sont attachées à une chaîne qui est au-dessus de leur tête, je veux dire, ils peuvent pas trop baisser les bras, donc l'embrouille, quoi, déjà, ça commence très très bien de ce côté-là. Et après ça, bon, bah, on va dire que... Bah,
il y a des flics infiltrés aussi.
Il y a des flics, il y a un flic infiltré, il y a...
C'est quoi,
également...
en Corse ou quoi, les mecs?
Ah non, 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 pas du tout. Et il y a également, bah, on va dire, quelque chose qui rôde, mais ça, qui rôde pas, quoi, mais bon, qui est planqué, parce que, ben, il y a une toute autre activité que le transport maritime qui se passe dans ce bateau, dans les cales du bateau. Voilà. On va pas déflorer plus, je pense, hein,
je
ça ira
pas,
comme ça.
Je voulais évoquer Frankenstein, mais tant pis.
Ah, ben, ouais, bon, non, 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 parce que c'est quand même pas mal. Parce que là, l'arrivée est quand même assez intéressante, quoi, c'est un des bons points du film, quoi, on peut dire, hein, parce que avant, bon, bah, ok, il y aura un nettoyage. C'est-à-dire que bon, bah, tous les prisonniers vont être libérés, enfin, vont se libérer au fur et à mesure, et bon, bah, vont essayer de dégommer du flic. Bien entendu, les flics, bien sûr, il faut qu'ils répliquent, parce que bon, bah, c'est dans un endroit très, 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 très confiné. Hein, c'est les bateaux en général.
C'est un huis clos, c'est un huis clos.
Bateau. Voilà, il n'y a
pas de grande salle, il n'y a pas d'espace. Hein,
non, la plus grande salle.
Tout est très étroit.
C'est la salle de commande, la plus grande salle. Hein, c'est celle.
Il n'y a pas un casino, il n'y a rien sur ce bateau.
Que dalle. Non, non, non. Non, c'est le transport de conteneurs.
Non, non, mais c'est du CMA, hein. C'est du transport de, c'est du transport de matériel.
Hein. Avec vous.
Non, c'est pas de la croisière, ça.
C'était pas trop de la croisière.
Je crois qu'après l'aéroport, ils ont pas pensé, ils ont tout de suite évacué la croisière.
Voilà, donc en fait, il y a un petit peu deux histoires, quoi, dans le film. Il y a l'histoire, bien entendu, du transport, et bon, bah, ça se passe très mal. Et il y a également bah, des activités annexes illicites qui se passent dans le bateau et qui sont également là pour empêcher le bateau d'arriver à bon port. Hein, parce que bon, bah, ça la foutrait mal, hein, avec tous les mecs qui sont morts, tout le sang, quoi, toute cette histoire. Mais bon, bah, ça se passe pas plus mal quand... ceux qui s'occupent de faire des produits, des trucs illicites, eh bien, sont dépassés un peu par leur sujet. Voilà. Là, t'as tout. Et sinon, bon, bah, pendant deux heures, bah, c'est...
ça dégomme.
Ça dégomme, quoi. Et puis, bon, hémoglobine, tout ça, toutes les positions, des bras arrachés.
Il y a beaucoup de trucs arrachés.
Tête, beaucoup d'écrasements.
Tête arrachée, écrasement, quoi. Attends, je me tiens contre la porte, mais on, blam, allez, je t'écrase dessus. Enfin, bon, voilà, quoi. C'est des trucs très, très agréables. Alors, bref, c'est vrai, c'est un film très plaisant pour. Quand tu as envie de te décérébrer la tête, voilà. Et te dire bon,
c'est spectaculaire.
Okay, je me lâche,
bien foutu.
Je me lâche, ouais. La vraisemblance à la limite, je m'en bats les hein, et ouais. Puis c'est très bien, ça marche. Voilà.
Moi, il y a un truc quand même qui me fait penser au cinéma américain, c'est que dès les premières images, dès que tu vois la gueule des gens, tu vois tout de suite les méchants et les gentils.
Ah oui,
même là, parmi les prisonniers, tu vois qu'il y en a un qui est, que tu vois le miné là. Tu te dis, lui, c'est pas un méchant comme le super tatoué, lui qui a une gueule de méchant et qui est méchant dès le début. Le miné qui dit rien, là, tu te dis, lui, il est pas là pour rien.
Ah oui,
on va pas spoiler.
Oui, mais quand il est. Quand
il se comporte pas mal, en fait.
Oui, non, mais quand au départ, ils font les trucs légaux, quoi. C'est-à-dire quand à partir du moment où les prisonniers montent sur le bateau, on leur notifie leurs droits judiciaires. Allez. Et tout ça. On leur dit, maintenant, vous êtes en Corée. C'est-à-dire sur le bateau, vous êtes déjà en Corée. Donc, on vous notifie vos droits et tout ça. Et justement, lui, là, c'est.
Il a un gros palmarès.
Il a un gros palmarès. En plus, c'est des trucs un petit peu crasse. Quoi, on va dire, hein. C'est pas simplement allez, je dégomme, je suis un tueur en série cool, quoi. Non, 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 c'est dégradation de corps humain, enfin, bon, c'est des trucs, bon, ok, et un meurtre, quoi, genre, quoi, il a qu'un meurtre, mais il a 13 machins et tout, quoi. Et tu te dis, ah ouais, lui,
il est très jeune,
il est très jeune, mais bon, ouais, hein,
ça, en fait, on lui a pu mettre comme meurtre, quoi, en gros,
voilà,
ouais, mais alors donc, que le gros méchant tatoué, lui, il a des assassinats gratuits et des viols.
Oui, mais c'est normal, quoi. Il a la...
C'est normal, il est tatoué. Si, il est tatoué. Donc, franchement, s'il était tatoué, il faut jeter le pédigré qui va avec, quoi.
Il a la gueule.
Je veux dire, déjà, tu vois la gueule des mecs, tu peux presque donner les palmarès, en fait.
Ouais.
Tu vois, et tu peux même savoir lequel peut basculer vers le bien ou à la gueule du mec. Ils ont choisi un casting. Déjà, on voit.
Il
y a les bons et les méchants.
Basculer vers le bien, je sais pas, dans ce film où tu peux trouver.
Si, à un moment, le minet. Il aide les flics vraiment.
Oui, mais les,
il sauve la vie de la fliquette, là.
Oui, mais il aide les flics, mais il aide quand même un corps constitué qui est un petit peu, on va dire, fasciste.
Oui, finalement, c'est très compliqué comme film.
Malgré lui.
Là, ça complexe.
Pour quelque chose qui avait l'air simple, genre un film où ça défouraille, ça a l'air très compliqué.
T'en as fait, ouais.
Il a vu plein d'images du sport, mais faut les remettre en l'ordre après, quoi.
Ouais, faut les remettre en l'ordre. Et puis il y a le coup du bébé que bon.
Rallonge pas. Donc.
Et tu vois, d'ailleurs, parmi les flics, le premier flic là, celui qui reçoit les prisonniers là, et qui tabasse le mec énervé là.
Ouais, sur le. Bon,
lui, tu te dis, c'est un gentil flic. Mais celui qui reste en Corée, celui qui prend la... Non, mais c'est un flic, c'est un bon flic.
Spoil pas.
Il est énervé contre le tatoué, là, mais parce que il a fait des victimes qu'il connaissait. Mais sinon, tu sens que c'est un bon flic, c'est un flic qui est flic, quoi, tu vois. Alors que celui qui reste en Corée, dans l'image du flic, il fait bien son boulot, dans l'image du flic qui veut rendre la justice.
Tu dis trop de phrases qui vont pas ensemble.
Mais après,
bien faire son boulot, ça ne va pas avec la définition d'un mot flic.
Celui qui prend les choses en main en Corée, là, qui prend la salle de contrôle, là, lui, tu sens que dès la première image, tu sens qu'il est pas là pour rien, qu'il est pas clair, lui. Dès la première image, quand il dit dégagez, bon. Maintenant c'est moi qui prends les choses en main, ouais, c'est ceux qui restent en Corée.
C'est un peu normal.
Et tu t'aperçois en effet à la fin qu'il n'est pas dans le bon camp. Mais tu le sens dès le début.
Oh, t'es sponsorisé par Alliance maintenant ou ça se passe quoi?
Bien placé. Donc ça c'est Project Wolf Hunting. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Batch 80?
Je crois que tout le monde l'a fait
l'impasse. Oui.
Tu l'as vu?
Ouais, moi je l'ai vu. Ouais.
Alors?
Oui, ben c'est un film des
hardcore,
années. Oui. Mais c'est un truc des années 60, c'est ça? C'est un vieux. Non, 80.
82.
Moi, 82. Ça m'a fait penser un peu à West Side Story sans la musique. Tu sais, ces histoires de clans comme ça qui se rejoignent pour venir se battre parce que ça finit dans un.
Ouais, parce que ça se passe dans une fraternité d'étudiants.
Voilà, c'est dans une fac, donc, il y a des fraternités d'étudiants, donc il y a l'endoctrinement qui est très long, où c'est vraiment presque du sadomasochisme parce qu'il doit appeler les autres maîtres à chaque fois. Il y a des tortures, c'est assez violent quand même, il y en a qui veulent abandonner.
Non, on dit pas torture, on dit bizut.
Ouais, c'est du bizutage, mais c'est du bizutage qui dure très longtemps, ça dure toute l'année, ils doivent appeler les gars de la fraternité, ceux qui les forment là, maître, ça dure toute l'année scolaire et ça finit très mal puisqu'il y a une autre fratrie qui va arriver et il va y avoir un meurtre et puis ils vont se venger, il va y avoir une grosse bagarre, des morts et que ça finit... avec quand même les mecs qui sont adoubés et qui deviennent maîtres à leur tour, mais il en manque quelques-uns.
C'est beau.
C'était le cahier du cinéma.
Voilà le résumé, sans
c'est
critique.
Beau, c'est beau. Ok, après, ça démarre
gentil comme un teen movie, en effet, mais très vite, c'est un peu plus malsain. Quoi. Ça n'a pas le côté image très propre, côté humour, rien du tout. Là, on passe très vite à quelque chose de viril et violent.
Très bien.
Avant de passer un petit morceau de musique, on va quand même vous mettre à contribution, quoi. Hein, savoir comment, si tout se passe bien pour l'instant, le festival et le public répond à vos sollicitations.
Oui, on est là.
À vos propositions, pardon.
Bien sûr. Oui.
Et tout se déroule.
Tout se déroule bien, mais. Non,
on parlait off juste avant le début de l'émission et c'est vrai que le film d'hier soir, c'est peut-être pour ça qu'on en parle un petit peu longuement, mais c'était salle complète avec des gens qui n'ont pas pu rentrer parce que ils étaient trop nombreux. Et
C'est prévisible sur les titres, les titres comme ça. Le film sort en salle actuellement. Enfin, il est sorti
le 20 mercredi. Ouais, mercredi quoi. Donc bon.
Il est sorti mercredi dernier, il est sorti, sauf qu'il n'avait pas de salle à Toulouse.
Ah,
voilà, c'est ça le truc. Enfin, il est en périphérie, je crois qu'il est au Méga CGR, je crois, quelque chose
d'accord,
comme ça.
D'accord, à la Blagnac.
Et d'après ce que j'ai compris, et je crois qu'il est en VF. C'était juste, parce que nous, déjà, on avait envie de montrer le film, ce qui n'était pas du tout sûr, puisque... comme c'est un film qui a une sortie nationale, s'il y avait un cinéma, quel qu'il soit, du centre-ville qui s'était positionné pour sortir le film commercialement parlant, nous on aurait dû se retirer. Voilà. On aurait dû laisser la main. Voilà. Donc quelque part on a eu donc la chance que que personne n'ait voulu du film pour pouvoir donc en faire une projection. Une seule et unique projection. C'est pas beau ça?
Seule
et unique projection.
C'est pas mal.
Je trouve ça beau. Un des organisateurs qui laisse sa place, la seule et unique place qu'il a,
ah ouais,
il laisse sa place pour une seule et unique projection.
La médaille du mérite, là. Attention, ça va arriver.
C'est beau, je sais pas.
Qu'est-ce qu'on se fait là du coup du sport? Une petite pause musicale et après on parle ça à
l'heure. Moi j'ai oublié un truc, c'est. Dans Bax 81, là, j'ai oublié quand même des scènes hyper importantes, c'est le spectacle de fin d'année. Il y a un spectacle de fin d'année incroyable où la fratrie donc principale, celle dont on suit les aventures, fait un spectacle de cabaret travesti nazi. Ça c'est extraordinaire. Et les autres, leurs ennemis, ils font un concert de glam rock déguisé en Orage Mécanique. C'est assez étonnant quand même.
Oh la vache!
Avec quand même sur les juste pour rajouter dans le bon goût de la chose.
Il y a pas des nonnes aussi?
Ouais. Non, pas dans celui-là.
Ah, c'est dans l'autre qu'il y a les nonnes.
Non, c'était dans le précédent. Avec donc sur la batterie le côté cabaret justement nazi, avec sur la batterie marqué Arbeit macht frei.
Cool.
Tu vois quand même quoi. Pour aller, ça pose bien. Ça,
phrase
ça
de circonstance.
Ouais, c'est assez. La séquence est assez incroyable.
Ouais. Bon, allez.
Tout ça, et tout ça en mode très camp, queer. Tu vois, c'est
décalé, complètement décalé.
Complètement.
Décalé catam quoi.
Allez, une petite pause là maintenant et on parlera de la journée, hein, de ce qui va se présenter à nous. Ça a déjà commencé avec Lucio Fulci, vous l'avez loupé parce que ça a commencé à 12h15. Mais d'ici la fin de l'après-midi et dans la soirée, il y a quand même une offre assez intéressante. Vas-y, envoie.
Des hypes de gauche, des crétouillacatsu. PLS gros rat, des hypes de gauche, des crétouillacatsu. Bich, il m'a fort, comme on tout fait, d'un man sauveur. Coudivès, un taille, ça d'être tout, au cam les peines. Taille salacro, yum sodivès, apirik, l'or que si fâche des boreman. Bichefta, PLS. Yeah.
écoutez toujours sur Radio Éphémère 89.1 MHz dans l'émission Crossover Extrême, ici à la Cinémathèque de Toulouse, en direct à l'occasion de la 24e édition de cet Extrême Cinéma. Parlons à présent de ce qui se passe aujourd'hui avec les deux programmateurs qui sont présents ici, Franck et Fred. Alors, on commence par ce qui pourrait être dispensable, mais qui est néanmoins essentiel, les films de 19h dans la catégorie de double programme s'expionnent à gogo et il s'appelle Super Nichon contre Mafia. Alors c'est marrant parce que tous les autres films, vous avez marqué le titre original dans la langue hein, dans laquelle il est sorti, mais là non, il n'y a pas.
Donc, ah c'est vrai.
Non, il y a pas, il y a pas.
Pourtant il y a un titre original.
Mais oui, ben c'est double agent 73.
OK, d'accord. OK.
Mais c'est parce qu'on voulait t'entendre dire
Super Nichon contre Mafia.
D'accord. C'est toujours tu vois c'est notre petit plaisir pervers.
T'es pas un peu fétichiste?
Non mais moi enfin moi je serai à l'accueil.
C'est bizarre, c'est pour moi ça.
Je serai à l'accueil ce soir, je veux entendre des gens qui arrivent et dire je voudrais une place pour Super Nichon contre Mafia.
Ok.
Ah, vous prêchez un converti là.
Ouais. En même temps. Alors, ça fait partie d'un double programme, hein, donc Super Nichon contre Mafia. Tu vois, hop là, je le redis quoi.
Il faut absolument venir voir ce film. Hein. C'est un film qui est absolument extraordinaire quoi. C'est complètement autre quoi. On est vraiment dans une forme cinématographique en fait que vous ne verrez jamais. Hein.
Alors, j'ai pas trop potassé le sujet, je t'avoue, à propos de Doris Wishman, réalisatrice.
C'est un film d'exploitation, ce qu'on appelle sexploitation. Et là où c'est génial, c'est que, alors effectivement, hein, on a des filles nues avec notamment avec une très 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 forte poitrine. Mais ce qui est incroyable, c'est que Doris Wishman, elle va filmer des fleurs. Elle va filmer à un moment donné, elle va filmer un chien qui n'a absolument rien à voir avec l'action. On est dans quelque chose, dans une liberté, mais totale par rapport au récit. Alors aujourd'hui, on est dans des formes de récits qui sont extrêmement polissé, où en gros c'est on voit
très
explicite. toujours la même trame où tout est expliqué, etc. Et là en fait vous allez voir un film qui est d'une liberté totale parce qu'en fait vous venez pour voir du sexe et vous en verrez pas trop en fait parce qu'elle va filmer à côté
parce qu'il y a pas que ça dans la vie,
c'est génial. Et mais en même temps à côté de ça avec des scènes de tatane à coups de nibar dans la gueule que je veux dire
même Bruce Meyer n'a pas osé.
Ouais, j'allais dire même Jason Statham en fait, il est pas à la hauteur quoi.
C'est sûr. Question, tout ça quoi. Question Nichon, il est pas à la hauteur, ça c'est clair.
Mais même niveau action quoi. Non, il faut absolument voir ce film. C'est une pièce très très rare quoi. C'est indispensable.
Tu nous mets l'eau à la bouche.
C'est incroyable.
Cette histoire là. En même temps, parce que Super Nichon donc c'est à 19h, c'est dans la grande salle, ouais. Mais en même temps dans la salle 2. Oui, il y a deux salles à la Cinémathèque si vous n'êtes pas au courant quoi. Et dans la salle 2, eh bien c'est un film français dans la catégorie polar à part hein, vous avez choisi 4 films de la même période, on va dire fin des années 50, début des années 60, avec des réalisateurs qui, par la suite, sont devenus quand même vachement connus. Hein, ouais. Y a pas de souci, quoi. Et surtout, ce soir, à 19h dans la salle...
Oui,
19h. Ouais,
19h dans la salle 2.
Salle 2, quoi. Donc, c'est Les femmes disparaissent.
Des femmes disparaissent.
Donc, un film d'Edouard Molinaro. Alors là, j'ai dit, ah ouais, quand même. Ouais. Bon, faut dire qu'il y a aussi André Cayatte qui n'est pas encore passé. Et il y avait le Max Pécasse samedi dernier. Bon, Max Pécasse, c'est pas le même genre. Mais enfin, il est aussi connu que les autres. Ouais. Mais Molinaro, c'est quand même La Cage aux Folles, L'Emmerdeur, Hibernatus. Je vous ai choisi les trois qui.
Bon, les trois gros.
Ouais, tout le monde connu. Il a fait beaucoup de séries et également pour la télé, hein, entre autres Navarro, H, Le Tuteur, Palace. Hein, bon, un choix divers et varié quoi, pour Molinaro. Et là, dans ce film, des femmes disparaissent, eh bien. Le scénariste, c'est Albert Simonin. Ouais, Bébert, vous connaissez pas Bébert? Bah, c'est le mec qui a sorti plein de bouquins dans la collection Série Noire et qui était très difficile à lire parce que c'était écrit de façon très argotique. Alors, si tu parlais pas un certain argot, il y a des trucs que tu pouvais pas comprendre, tout simplement. Mais c'était comme ça, quoi, parce que c'était, les tontons flingueurs, c'est le cap se rebiffe, c'est Mélodie en sous-sol. Rappelez-vous, tout ça, c'est du Simonin. Dans les rôles principaux, on a Robert Hossein, Magali Noël, Estella Blin et Philippe Clay. Et moi, je flash pour moi, dès ma plus tendre enfance, chaque fois que je voyais Philippe Clay à la télé, dans un film ou un truc comme ça, je disais, putain, le mec, il est trop fort, il est excellent, il a une gueule, et en plus, il sait vraiment très très
il
bien
est,
jouer.
Et dans ce film, il est vraiment génial.
Parce que lui, il joue le rôle d'un bad guy, quoi, en plus, dans le film.
Il joue le rôle d'un je ne trouve plus le terme.
Le lendemain.
Porte-flingue, quoi. Voilà, l'homme de main, porte-flingue. Et il est très très drôle. Il a une gueule incroyable. Qui était chanteur, lui, à la base.
Philippe Lay, oui, il a toujours été chanteur.
Danseur.
Danseur. Enfin, le type, il faisait des claquettes. Il était multiforme, un petit peu comme le père de l'autre, là, Cassel, quoi.
Le papa faisait tout.
Il
savait tout faire, oui.
Il avait
dans le
ça.
Film, on voit que lui. Hein. C'est le seul cas du charisme.
D'accord, règle.
Ok, donc ce film qui se passe à Marseille, et puis c'est une histoire de
traite des blanches.
De traite de blanches à Marseille.
Ça, c'est assez flou, d'ailleurs. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent en faire, des femmes.
Oh, si, t'as
on peut se douter.
T'as un pitch qui est quand même assez complet si tu cherches un petit peu, et ok, quoi. C'est-à-dire que il y a encore
la mafia.
Non,
mais dans le film, c'est pas clair, en fait.
On est en 59, il y a encore la mafia à Marseille qui chapeaute la ville, et il y a encore de la traite des blanches. Bon. On peut dire que il y a un petit anachronisme, mais c'est pas grave, vu la qualité des interprètes, ça vaut le coup. Donc ça, c'est ce soir, d'après-midi à 19h, dans la salle 2. Mais il y a également, ce soir, la nouvelle double séance présentée par un invité. Et là, ça va être Pete Toms ce soir. Alors c'est marrant parce que Pete Toms, c'est un Anglais, un Britannique. Mmh. J'ai toujours pas cherché, merde, de quel coin il vient.
Et, de Londres.
London, ok, British, ok, English. Donc lui vient présenter deux films. Alors là, ce qui est marrant, c'est quand j'ai survolé au départ l'ensemble de la programmation, je me suis dit, c'est vachement hispanique cette année.
C'est pas fait exprès.
Toms présente deux films espagnols.
Oui, voilà, tout à fait. Oui. Non, ça peut sembler bizarre, mais tout s'explique. Pour aller très vite, parce que vous allez le recevoir, il expliquera sa longue carrière. C'était pour un petit clin d'œil et aussi un petit hommage, parce que Extrême Cinéma, alors à cause d'une multitude de films et de réalisateurs, mais aussi à cause de bouquins et d'éditeurs que ce soit de DVD ou de Blu-ray. Et Pete Toms, au milieu des années 90, a écrit un bouquin qui s'appelle Immoral Tales, avec un autre auteur qui s'appelle Catatoil, je crois, un truc comme ça. Immoral Tales, qui traitait du cinéma de genre européen. Et 3 ans plus tard, la même équipe a sorti un autre bouquin qui s'appelle Mondo Macabro, et qui là s'ouvrait au continent asiatique, au Japon, etc.
Au monde entier, en fait.
Et ce qu'a fait Toms, en fait, il a parlé de cinéma de genre autrement. Voilà. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui, à l'époque, était... Les deux bouquins n'ont jamais été traduits en France, d'ailleurs. C'est assez incompréhensible. Et c'est quelqu'un qui a, commencé à aborder le cinéma de genre. Il a, j'allais dire, d'une manière sérieuse. Alors, oui et non, en fait, ce qu'il a fait, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il a trouvé le ton juste. C'est-à-dire qu'il a trouvé la distance nécessaire, en fait, pour pouvoir parler de ses films sans les considérer comme des merdes, ce qui était le cas à l'époque, hein, où le cinéma de genre n'était pas, n'avait pas le, le, comment dire, le un petit peu ce label doré, voilà, le statut qui qu'il a aujourd'hui. Mais quand même, il disait bon, bah, il faut voir ces trucs parce que c'est grâce à lui que j'ai appris qu'il y avait un film, qu'il y avait un Dracula pakistanais, voilà, qui avait été tourné dans les années 50. C'est grâce à lui en fait qu'on
c'est
sait.
C'est un passeur en gros.
C'est un passeur, c'est quelqu'un qui a fait passer énormément de choses. Et quand il a créé ce fameux label Mondo Macabro, donc qui s'inspirait du bouquin, du titre d'un de ses livres, en fait, il a commencé à traquer des choses à travers le monde excessivement bizarres. Voilà, c'est un chercheur de films. Voilà, il n'arrête pas et tout. Et donc là, alors on lui a un peu forcé la main en fait sur les deux titres.
Ah bon ?
Ouais, parce qu'on lui disait deux titres de son catalogue, mais ce serait bien si c'était Terrain de chasse et Animales Racionales.
Ah bon ?
Bon, visiblement, lui, il a dit oui, bah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, donc voilà, il va venir présenter ses films. Mais parce que voilà, je pense qu'Extrême Cinéma lui boit beaucoup. Que on passe ces deux films-là.
Par rapport au bouquin.
Et par rapport au bouquin, bien sûr.
Par rapport à tout son travail, en fait. C'est devenu au bout d'un certain temps, quoi. C'est devenu une espèce de petite bible parmi tant d'autres, quoi.
C'est exactement ça.
Des petites pépites comme ça pour faire vous-même vos propres
recherches.
Très honnêtement,
après moi, c'était de. Je veux dire, si ce garçon n'édite pas ces deux films, moi, je n'aurais jamais eu accès, je pense, à ces films-là. Voilà, ça m'étonnerait, notamment Animales Racionales, hein, qui est le seul film de son réalisateur, film qui n'était pas sorti en salle, même en Espagne, qui était sorti uniquement en VHS. Donc je pense que le film avait été totalement oublié, enfin avait complètement disparu. Voilà, et lui il fait donc ressurgir, voilà, des choses comme ça, et ça c'est formidable.
Alors ça, le film dont tu viens de parler, Animales Racionales, c'est demain et ce soir, par contre, à 21h, dans la grande salle, présenté donc par Pete Toms, ce sera Terrain de chasse ou Coto de Casa. Alors là,
j'en dis deux mots, c'est ça.
Alors moi j'ai vu le petit pitch que vous faites dans le programme. Je suis allé me renseigner de mon côté et puis bon bah ouais, ça fait chien de paille quoi.
Alors oui, tout à fait.
Non mais dans l'histoire du film, ouais. C'est ça quoi, un petit peu quoi.
Ouais, et puis ça pourrait appartenir à ce genre un petit peu borderline qui est le rape and revenge.
Comme la traque un peu de Serge Leroy.
Comme la traque de Serge Leroy, comme I Spit on Your Grave de je ne sais plus qui. Ouais. Ça pourrait être, voilà, ça pourrait. Mais c'est un film tardif pour c'est un rape and revenge très très tardif. C'est un film de 83.
D'ailleurs, le réalisateur Jorge Grau, il est déjà vachement âgé quand il fait ce film.
Tout à fait. Parce qu'il est né.
Il est né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Donc, c'est pas un débutant.
Jorge Grau, par contre, alors moi je le connais pour ses films des années 70, notamment Le Massacre des Morts-Vivants,
voilà.
Qui est un film de zombies assez connu, écolo, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Mais toute cette période années 80, d'ailleurs c'est bête parce qu'on se dit ces réalisateurs arrivés à un certain âge et dans les années 80, on se dit ils sont plus très très intéressants, voilà, erreur, grave erreur. Et quand tu parlais des chiens de paille, c'est tout à fait ça, sauf que c'est je dirais que c'est une version sociale des chiens de paille.
Ça, voilà, donne envie.
C'est une version. C'est quelqu'un qui regarde son pays, hein, qui ausculte son pays. Jorge Grau fait un film à l'instant T. C'est comment ça se passe en Espagne. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qui va confronter, on va dire, des voyous sans foi ni loi à une avocate qui elle est pétrie de pacifisme.
Ouais, de bonnes intentions.
De bonnes intentions, voilà. Etc. Et qui est un personnage d'ailleurs très très bienveillant, etc. C'est la confrontation des deux. Alors comme je l'ai dit, c'est une version sociale des chiens de paille, sauf que, alors je préfère prévenir, le dernier tiers du film, ça appuie, hein. Là on passe la cinquième et yes. Terminado la rigolada, hein, voilà, là je préfère le dire de suite, je ne sais pas si vous avez vu le film, c'est parce qu'on ne peut pas dire que ce soit plaisir du spectateur.
Ok, ça donne
du
rien.
Coup, moins de... ce n'est pas plaisir du spectateur, moi personnellement je ne reverrai pas le film.
Eh oui, c'est vrai.
Moi je vous le dis de suite, hein, je l'ai vu une fois, bon, je ne reverrai pas.
Tu donneras ta place à...
Alors, je donnerai ma place
à un enfant si possible.
C'est interdit moins de 16, donc tu peux pas.
Oui, là aussi, il n'était jamais sorti en France. D'habitude, on n'interdit pas les films. Hein,
oui.
Voilà. Mais là, je pense que oui, il fallait quand même mettre le petit. Voilà, c'est pas du tout pour être, comment dire, moral et perdre la morale. Non, c'était juste pour dire, voilà, le dernier tiers, c'est appui. Ça
ok, mais vraiment. J'amènerai mes mouchoirs.
Alors, c'est marrant.
on saute pas là.
Alors, je me pose la question, peut-être que vous êtes un petit peu plus au courant, parce que bon, le film date de 83. Donc, Georges Gros, à l'époque, il a déjà 70, presque 70 balais, quoi, en fait, quand il tourne ce film. Et 83, bon, bah, c'est ce qu'on a appelé en Espagne. Après bon bah la mort de Franco et puis bon bah enfin ce qui s'est passé pendant quelques années après début des années 80 au niveau du monde artistique et surtout du cinéma, c'est là que c'est développé ce mouvement qui s'appelle la movida et qui a engendré des gens comme Almodovar, toute la vague espagnol que nous on connaît maintenant quoi hein, avec bon justement on va le voir c'est un des plus anciens mais il y en a plein d'autres mais il y avait pas un espèce de
il y avait pas que la movida hein. Il y avait aussi il y avait le kinky qui a été qui est un autre genre espagnol typiquement espagnol et qui est beaucoup plus beaucoup plus hard boil en dans le côté social en fait non parce que la movida on a tendance à un peu à résumer le cinéma espagnol à la movida il y a pas que ça hein. Même à l'époque, quoi.
Bah, disons, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la face sombre, en fait, de la movida. Parce que souvent, la movida, c'est joyeux, avec des couleurs acidulées, etc. Ouais. C'est des comédies trash, hein, très, très, très trash, hein, on est d'accord, quoi. Mais ça, ce serait un pan du cinéma espagnol qui serait la face sombre de ce qui se passe en Espagne. Dans les années 80, puisque je le redis encore une fois, le film d'ailleurs commence. Il y a énormément de scènes de rue. On est à même le pavé. C'est ce garçon qui observe son pays. Voilà, il se dit qu'est-ce qui se passe en Espagne en 83.
En fait, c'est le côté sombre de la justement de la jeune fin de la jeune République quoi en fait quoi. C'est vraiment ça, quoi, cette période qu'on appelle la transition, la transition, tu vois, en Espagne. Et donc on voit, ben voilà, c'est la fin du franquisme, c'est du coup de la République. Donc il y a un côté très réjouissant, c'est la libération. Mais en fait, les vieux démons sont encore là aussi, quoi. Et donc il y a toute une série de films aussi qui saisit ce moment, de la transition. Transition où c'est pas aussi joyeux que ça. Disons que les tortionnaires d'autrefois ils sont encore un peu là quoi. Tu vois ça a laissé des traces. C'est tout ça. Tu passes d'un régime à un autre régime et c'est fini. Non en fait et on appelle ça la transition. Et il y a un moment où ça cohabite et ça fait des choses assez bizarres. C'est un film qui parle de ça hein, qui le saisit et qui marque cette époque là. Faut pas oublier que voilà sans vouloir rentrer dans le délire de contextualisation, mais quand même c'est quand même aussi important. On est à une charnière politique en Espagne début des années 80 et donc voilà, la libération, il y a aussi encore des traces du fascisme hein, qui est encore là quoi. Ça s'arrête pas tout d'un bloc.
Ok, donc ça c'est le premier film présenté par Pete Tom, c'est ce soir donc à 21h dans la grande salle Terrain de chasse de Jorge Grau, précédé par des petites, c'est pas des vignettes, hein, c'est des petits trucs, les mystères de Toulouse.
Ah, c'est une série, donc c'est une vraie série en 4 épisodes, donc tournée fin des années 70 à Toulouse, et c'est des épisodes de un quart d'heure, hein,
ouais,
grosso modo.
Ça, 13, 14.
Et donc c'est le premier épisode, c'est très très fun ça, très très fun, très drôle, c'est excellent.
Il y avait quelques présentations qui avaient été faites, et c'est vrai que les moyennes techniques devaient faire 3 quoi, mais qu'ils font une série assez...
D'action, assez sympa. Dans le dernier épisode, il y a même du Kung Fu,
ouais.
FR3, vous imaginez à l'époque, du kung-fu, formidable.
Quand même. Et ça, on le doit à un peu, je le sais parce que j'ai discuté avec lui hier.
C'est grâce à Yves, Yves Gaillard qui bosse à l'INA.
L'INA, qu'on avait eu l'année dernière et qui donc a fourni donc ces petites pastilles. C'était passé sur France 3 à 19h05.
Juste avant le journal régional.
78, ça. 79, voilà.
Ouais, c'est
79.
Ça. C'est ça. Ouais, 78,
ouais. Voilà. Donc, ça peut être super cool.
Et donc, 4 épisodes. Le premier ce soir à 21h, le deuxième demain soir à 21h, le troisième jeudi, le quatrième jeudi, vendredi. Voilà, c'est juste, c'est en avant-programme du grand film, on va dire, du soir.
Bah ouais, mais c'est le cinéma comme c'était quand j'étais petit, quoi. Il y avait le court-métrage, il y avait d'abord le dessin animé, ensuite il y avait un petit court-métrage, ensuite il y avait de la pub, et ensuite il y avait le film.
Hein, c'est ça?
Ah
c'est
ouais.
Ça.
Ah bah ouais, exactement comme ça, ça. T'avais le temps d'acheter ta glace, quoi.
Il n'y a pas la pub, quand même.
Là, non.
Non, non, bah. Tant mieux, quoi. Donc, oui, ça, c'est dans la série, donc, Les Mystères de Toulouse. Et ça va être marrant, en plus, ça va être marrant de voir à quoi ressemblait Toulouse à cette époque-là, hein, à l'époque du tournage.
Oui, oui, tout à fait, parce que c'est filmé dans les grands lieux toulousains, si on peut dire. Ouais. Le Grand Rond, enfin, le Jardin du Grand Rond.
Ouais, puis le Capitole, qui est un parking, quoi.
Le Capitole.
Voilà. Bah, là, c'est un parking.
Le parking, ça, c'est pas mal. Donc, tous les jours de la semaine, avant le film, du soir de la séance de 21h, donc c'est petit court-métrage Les Mystères de Toulouse. Et look, comme il m'a tanné depuis hier, quoi, pour qu'on en parle, il y a également le double programme consacré au serial killer. Vas-y, oui, fais ton office.
Ça valait le coup, en fait, de tanner. Non, mais je suis très heureux de vous avoir entendu parler justement de terrain de chasse, et parce que vous avez dit quelque chose qui est très intéressant, c'est que quand vous faites le festival, vous ne réfléchissez pas forcément à une thématique qui va se dégager, et apparemment, elle se dessine d'elle-même. Et moi, je suis très curieux de voir qu'en fait, cette année, il y a quand même pas mal de serial killers, mais pas forcément que par votre double programme Schizophrénia et Henri, qui sont, attendez, je vais revenir après, mais bon, même par Fulci, hein, vous avez pris du coup les films de Fulci qui passent, voilà, c'est pas son centre le plus fantastique, hormis La Longue Lune de l'exorciste, on est vraiment dans ces trucs plus giallesques, beaucoup plus âpres, et surtout pour L'Éventreur de New York. Et donc moi, j'avais envie de vous poser une question, parce que c'est quelque chose qu'en fait je suis en train de me rendre compte avec par exemple Scream 6 qui va sortir, l'espèce de phénomène qu'il y a eu là avec la série Netflix d'Hammer. Et ben on retrouve un regain d'intérêt de la figure du psychopathe. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, et comment vous la comprendriez?
Alors oui, ça revient, mais ça, après,
bon, après il est jamais vraiment parti,
après c'est des trucs cycliques. Après, je sais que pour nous, enfin, je sais pas si Franck sera d'accord, mais nous, par exemple, c'est totalement inconscient. Hein.
Et moi, ouais, je, ça c'est voilà. Intéressant.
Alors, pour tout vous dire, même, on a le cycle Polar à part qui est venu se greffer un petit peu comme ça en dernier, a été fait pour alléger.
Parce qu'on a regardé
les titres, et on a dit, ah oui, quand même, ouais, c'est un peu, c'est pas joyeux, quoi. Que ce soit un océan de joyeuseté. Mais c'est, je pense que c'est instinctif. On programme de façon extrême cinéma instinctivement.
Mais ouais.
Donc on obtient des fois des trucs. C'est vrai que celui-là était particulièrement salé quand même. Hein.
Mais là on est dans du âpre en fait. On est dans du réalisme. Mais ce qui est bien avec la figure du psychopathe régulièrement, c'est que il y a. Vous parliez justement de la terrain de chasse qui décrit du coup l'Espagne et la société du coup de ce qu'était l'Espagne à l'époque du tournage. Et ben je trouve que le genre du psychopathe c'est vraiment tout le temps ça quand Fulci va faire L'Éventreur de New York, c'est un tableau de New York vu par le prisme d'un Italien. C'est vraiment un des intérêts, je pense, du serial killer au cinéma, c'est de décrire plus souvent, du coup, ces milieux souvent urbains.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis il y a ça, c'est le premier truc, ça c'est vrai. C'est très 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 vrai là ce que tu viens de dire pour le Fulci, hein, qui est un film sur la corruption, comment un environnement urbain vient corrompre les âmes, hein, voilà.
Il n'est pas joyeux celui-là non plus.
Non, vraiment pas joyeux du tout. Et puis après par exemple il y a ce double programme là avec Schizophrénia et Henri, c'est aussi j'aime beaucoup ça dans les films de serial killer, parce que c'est quasiment un genre à part entière maintenant, c'est devenu ça. Mm-hmm. C'est les lignes morales qui peuvent bouger.
Ouais.
En fait, puisque le point commun entre Schizophrénia et Henri, c'est-à-dire qu'on est collé au basque en fait d'un tueur.
On est du côté du tueur. En fait, les films, au-delà d'avoir ce tableau, je trouve, en second plan d'une ville, c'est vrai que comme vous le dites, on adopte la psyché du tueur,
ce qui vient bousculer,
comme tu l'as dit, les barrières morales. En fait,
c'est ça, et ça, c'est assez fascinant, par exemple, notamment avec Schizophrénia.
Parce que là, quand je dis
qu'on est collé, quasiment tout le film, en fait, il y a une espèce de procédé technique qui est complètement dingue, c'est-à-dire que la caméra, en fait, voilà, la caméra, c'est l'acteur qui porte la caméra avec un harnais, en fait.
Bon, sur certains plans, ouais. Et je crois même la caméra est tournée vers le ciel. Il y a des miroirs qui font que ça crée une déformation.
C'est ça.
C'est extrêmement plaisant.
Et on a l'impression, en fait, que
c'est comme si c'était une GoPro, comme si t'avais une GoPro sur toi, en fait, quoi, sur ton visage, quoi.
Et c'est vrai que c'est marrant, à la différence, Henry, qui lui est typiquement américain, parce que schizophrénia autrichien, on voit qu'ils se sont permis, il y a un côté, on va dire, j'ai pas envie de dire plus auteur, parce que Jockman Norton a quand même un côté
un
auteur.
Un peu plus expérimental.
Un peu plus expérimental, carrément. Et alors que, bah, quand c'est Henry, on est vraiment, du coup, sur une description d'un Americana vraiment borderline. Mais il y a ces moments qui sont quand même expérimentaux, qui sont dus, cette fois, au plan en vidéo.
Oui, tout à fait. Dans Henri, il y en a. Moi, j'aime beaucoup Henri. Hein. C'est
il est glauque,
qui était, qui est très glauque et qui est très perturbant et qui, en fait, où il y a, comment je pourrais dire ça. Il y a presque une hiérarchie du tueur. Il y a presque, où à un moment donné, on est du côté d'Henri, très clairement. Et on se dit, il y a un autre personnage dans le film. Je veux pas en parler.
Il est une force brute, Henri. Le serial killer a ce côté où on peut s'identifier à lui, ou alors être complètement en répulsion face à lui, parce qu'il y a en fait, il y a un côté brutal et innocent, un peu comme le The Shape, j'ai envie de dire, de Halloween, où c'est des figures compulsives et qui peuvent, quand on est un peu tordu, des fois, être empathiques.
Ah oui, non, tout à fait. C'est pour ça que Henry est particulièrement formidable. Schizophrénia est un peu différent de ce point de vue, quoi.
Ouais.
Parce que c'est vraiment un point de vue sur le monde complètement zarbi. On a tout l'impression que le monde est déformé, alors que, le personnage du tueur, lui, est stable.
Et pourtant,
c'est le monde en fait qui est qui
vacille.
C'est le monde qui vacille et lui est stable.
Et
c'est très perturbant.
Les deux ont des références aussi au milieu carcéral. Hein. C'est ça qui est intéressant parce que ce soit Henri ou le tueur de schizophrénie, les deux sortent de prison et on voit
les deux sortent. Et puis Henri, après, il y a ce côté. Ça c'est génial. Ça c'est le côté carmonde américain, quoi.
Ouais.
Parce que c'est quelque chose. Finalement, on accompagne des laissés pour compte qui n'ont d'autre passion que le meurtre, en fait.
En tout cas, le meurtre
gratuit. C'est ça aussi, c'est assez bizarre. C'est complètement désintéressé.
C'est vrai que c'est marrant parce que on parlait justement du genre du serial killer. Bon, il y a eu le slasher qui est un peu coincé entre le serial killer et le giallo. Donc c'est pour ça que je suis aussi content de voir du Fulci. Et c'est vrai qu'au carrefour des années 80, alors que le slasher aux États-Unis avait l'air de devenir quelque chose un peu, on va dire, beaucoup plus facile d'accès, marrant, réservé aux teens, donc aux adolescents, donc des films vraiment d'exploitation pure, et il y a quand même ces réalisateurs comme Wes Craven qui a quand même lancé, on va dire, aussi ce côté slasher teen, mais qui sont revenus à des films de serial killer bien brutaux, bien âpres. Lui, je crois qu'il avait fait un Shocker, Bava aussi avait fait un Choc dans les années 80, je crois. Mm-hmm. Comme on l'a dit, Fulci, c'est L'Éventreur de New York. Et je suis ravi de voir que, du coup, dans votre programmation, pour moi, il y a les trois les plus hardcore de cette période-là, années 80, où les mecs ont voulu refaire du serial killer, mais en mode pas pour rigoler, pas pour les ados. Et c'est justement Henry, Schizophrénia. Pour moi, il manque plus que le Maniaque de William Lustig.
Et j'allais parler du Maniaque de Lustig, justement. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, on fera venir William Lustig. Lui, on l'a pas eu. Il est encore là. Voilà. Il est encore là.
Ce serait mortel.
Ce serait top.
Alors là,
ce serait mortel.
On croise les doigts.
Des profundis. Donc, on parle de serial killer, c'est normal parce que ça se passera demain. Donc, pour le premier Schizophrénia, film autrichien de Gérard Kargl.
Son seul film d'ailleurs, je crois. Je crois que c'est son seul film.
Ouais. Dont le titre en allemand c'est Angst, c'est-à-dire la peur, quoi.
L'angoisse,
peur,
même.
Non, la peur. Non.
Traduit par peur.
Oui. un film de 83, donc qui est pas récent. Hein, et bon, à l'époque, c'était pas la mode, le 83.
Mais c'était une bizarrerie.
C'est un ovni, ce film. Il sort de nulle part. C'est un fait unique dans la filmographie de son réalisateur. Et c'est surtout un film qui est dû, comme on l'a dit, vu qu'il y a un procédé technique incroyable, qui est dû à cette collaboration avec le chef op, dont j'ai complètement oublié le nom. Mais je crois qu'en fait, je sais plus si le réalisateur justement n'a pas fait peut-être un autre film ou le chef op a fait d'autres films. Mais là, c'est vraiment dû à cette collaboration qui est unique et qui n'aurait jamais pu se reproduire par la suite, je pense, sauf si les deux avaient refait un film ensemble, mais le film pousse beaucoup à son chef-op et surtout à l'acteur Erwin Leder aussi, qui a une gueule d'enfant perturbé, en fait.
Éphémère 80.1 Éphémère 89.1 Irritant.